On va continuer à décrypter la situation politique, le rôle du président dans tout cela. Emmanuel Macron qui est toujours à Washington pour le sommet de l'OTAN, où l'on va retrouver Mathieu Coache qui suit l'Élysée pour BFM TV. Mathieu, Dieu sait si c'est une règle à géométrie variable, mais on a entendu le président de la République dire « Ah non, moi je ne parle jamais de la situation nationale à l'étranger. C'est une façon habile de ne pas s'exprimer sur la situation politique en cours ?»
Oui, probablement parce que j'ai autant d'exemples en tête de sommets internationaux où Emmanuel Macron parle de politique française, pas plus tard d'ailleurs que le mois dernier, lors du G7 en Italie, que de sommets où il explique qu'il ne fera pas de commentaires sur la France parce qu'il est à l'étranger. Eh bien, cette fois-ci, c'est la deuxième option. Emmanuel Macron reste silencieux depuis la dissolution. Enfin, presque, il a dit ceci en arrivant au sommet de l'OTAN ce matin. Écoutez.
Monsieur le Président, bonjour. Comment vous accueillez les réactions, on peut dire, mitigées à votre lettre d'hier?
Je ne ferai aucun commentaire de politique nationaliste par définition. Mais tout à l'heure, je viendrai vous rendre compte des décisions à la fin.
Mais cette situation politique a des répercussions sur la scène internationale.
Alors, à huis clos, devant les alliés de la France, Emmanuel Macron a tout de même été un peu plus bavard et il travaille à rassurer sur la stabilité du pays depuis hier. Les Français ont fait le choix d'exclure les partis extrémistes qui auraient pu contester l'engagement de la France à l'égard de l'Ukraine. Voilà ce qu'a dit le président de la République lors d'une session plénière hier. Pour vous donner aussi une idée de la réaction des autres pays ici, il faut quand même avoir en tête qu'une élection anticipée législative, si c'est très rare en France, eh bien c'est d'une grande banalité dans beaucoup de pays membres de l'OTAN, et beaucoup de diplomates, de conseillers, de journalistes ont retenu que l'extrême droite ne gouvernerait pas. Le reste, je dois vous dire, provoque assez peu d'intérêt dans les autres délégations.
Mathieu Coache avec Bruno Ferro en direct de Washington. Et j'accueille sur ce plateau mes invités. Bonsoir Charlène Bézina.
Bonsoir Benjamin.
Politologue, constitutionnaliste. Bonsoir Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro. Bonsoir Olivier Beaumont.
Bonsoir
Benjamin. Reporter politique au Parisien aujourd'hui en France. On verra notamment avec vous ce qui est en train de se passer dans la majorité.
Passionnant.
Les batailles de coulisses autour de la présidence de groupe. Savoir s'il faut regarder vers la droite, vers la social-démocratie. Il se passe plein de choses. Et bonsoir Adrien Brachet, journaliste politique à Marianne et contributeur à la Fondation Jean Jaurès. Guillaume Tabar, je commence avec vous. On est à J+1 après la lettre du président de la République, cet appel aux Français qui était censé délimiter les bornes de la discussion, peut-être essayer de clarifier une situation qui devait déjà être clarifiée par la dissolution. On ne peut pas dire que c'était une franche réussite. Pas le sentiment que les choses aient vraiment changé après cette lettre?
Non, et il ne pouvait pas en être autrement. D'une part, parce que du côté du nouveau Front populaire, leur logique, c'est de rester au sein de leur coalition jusqu'au bout et d'imposer à Emmanuel Macron et donc à l'Assemblée une solution qui est validée, qui ne serait validée qu'entre eux, hein, et qui ne cherche pas d'autres alliés, qui veut dire le Front populaire a gagné. Tout le débat sur a-t-on gagné quand on est en tête mais qu'on n'a pas de majorité absolue. Et donc voilà, on a rien à négocier avec Emmanuel Macron si ce n'est à lui imposer une solution. Et puis de l'autre côté, on a une partie de l'ancienne majorité qui discute ou qui réfléchit à des scénarios intégrant la droite. Et là aussi, une partie des dirigeants de la droite réfléchissent à ces scénarios. On va dire que ces scénarios alternatifs, ils sont très sensibles. Parce que LR a toujours été sur une ligne d'opposition très ferme à Emmanuel Macron. On bascule pas du jour au lendemain comme ça, hein. On veut le battre. On est prêt à travailler avec des gens de son ancienne majorité. Donc tout ça demande un peu de finesse, un peu de temps aussi. Alors le temps, Emmanuel Macron en donne. Mais d'une certaine manière, je me demande si, en apparaissant en grand ordonnateur de cette
architecture alternative, c'est la moins bonne façon de faire en sorte que les choses aboutissent.
Précisément, je pense que, d'abord, la droite, c'est sûr, mais une grande partie de ce qu'on appelait autrefois la Macronie, c'est certain aussi, ne veulent surtout plus qu'Emmanuel Macron se mêle de tout cela et dise, voilà, si on trouve une solution, ce sera notre solution. Et d'une certaine manière, cet arc-là, cet arc alternatif, veulent imposer au chef de l'État une solution de la même manière que la gauche prétend lui en imposer une aussi. Mais on voit bien que des deux côtés, à gauche, c'est pas mûr, c'est pas prêt, ça bloque, parce que les insoumis ne veulent pas céder sur le nom d'Olivier Faure, ou du moins sans contrepartie majeure, on veut l'intérieur, on veut la défense, on veut tout ça, voilà, on veut tous les postes importants. On voit bien que symétriquement, ça va prendre aussi du temps. Donc là, on n'avance pas à pas. Moi, ce qui me surprend surtout, c'est que la lettre d'Emmanuel Macron, on peut dire qu'il pose un cadre. Mais à ce moment-là, si l'objet, c'était juste de fixer un cadre, eh bien, il fallait le faire dès dimanche soir ou lundi matin. C'est-à-dire qu'au soir des résultats, après tout, après les européennes, il n'a pas attendu un quart d'heure pour faire un acte politique un peu majeur qu'on appelait des solutions. Là, il a attendu 5 jours Donc ça contribue au flottement pour faire, pour poser un cadre qu'il aurait dû poser dès le début. Parce que voilà, ça voudrait quelque chose, alors que là, on est au milieu du guet et ça ne fait pas avancer grand-chose.
Olivier Beaumont, quand on écoute Guillaume Tabar, on se dit que ça peut encore durer longtemps. Est-ce qu'au fond, celui qui a donné une piste, la plus claire peut-être, ce n'est pas Gérard Larcher ce matin, qui au micro d'Apolline de Malherbe dit bah, « Moi, j'ai dit au président qu'il fallait de toute façon se laisser au moins l'été et regarder tout ça au mois de septembre. » Est-ce que c'est, en l'état, le scénario le plus plausible ?
Ce serait peut-être le scénario le plus sage en tout cas. Gérard Larcher, c'est le président du Sénat, c'est l'élu des territoires, hein, il revendique ça. Et il entend aussi ce que lui font remonter les sénateurs, les élus de terrain, sur le ras-le-bol généralisé des Français. Ouais. Quand même, on réalise pas, enfin, les Parisiens le voient dans les nombreuses installations qui sont en train de se mettre en scène au bord de la Seine, mais les JO sont dans 10 jours, hein, maintenant. Donc, il y a quand même à un moment donné le besoin d'appuyer sur pause, d'appeler un petit peu au calme, parce qu'on voit bien aujourd'hui que le paysage politique n'est pas stabilisé. Je note quand même, moi, je trouve qu'il y a un petit événement, dans le petit bouger côté LR qui, moi, m'interpelle. Ce sont les propos de Laurent Wauquiez hier qui, rejette une nouvelle fois l'idée d'une coalition.
Il dit pacte législatif.
Et ben ça, quand même, pour moi, c'est énorme. Parce que Laurent Wauquiez, c'est quand même le président du groupe. C'est celui qui, à ce stade, en tout cas, a l'ambition pour 2027 la plus affichée. Ouais. C'est l'ancien président de LR, celui qui était sur la ligne la plus dure. Et que je trouve qu'il commence à avancer, à envoyer un premier signal comme ça, une première main tendue sur pourquoi pas sur un pacte législatif très précis. On pourrait peut-être discuter. Je trouve que c'est déjà un bouger qui, plus qu'être sensible, c'est vraiment une avancée qui permet déjà de dénouer potentiellement des discussions en cours.
Anne-Charlène, sur ce pacte législatif, vous qui connaissez parfaitement non seulement la lettre et la pratique des institutions de la Ve République, c'est quoi ? C'est ce qu'on a appelé, ce que les communistes appelaient, alors c'était pas sous la Ve, c'était sous la Troisième au moment du Front Populaire, le soutien sans participation, c'est ça ?
C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, dire qu'on ne fait pas partie d'une coalition en faisant partie d'un pacte législatif, c'est jouer sur les mots, évidemment. Ouais. Et d'autant qu'en plus, ça sépare le législatif de l'exécutif dans quelque chose qui, à l'heure actuelle, ne nous arrange guère, puisque la question centrale, c'est non seulement avec qui on va gouverner et avec quoi, évidemment, cette coalition, mais aussi la question de savoir qui va occuper la place à Matignon. Moi, il y a quelques mots sur cette lettre du président, d'abord en termes de légitimité, puis de continuité, qui me pose un problème. Est-ce que c'est au président de la République de proposer ce contrat de coalition ? Là, moi, je crois qu'on a un problème de méthode, parce que je rejoins totalement ce qui a été dit sur la temporalité. Soit c'est trop tard, soit c'est trop tôt, parce que une coalition alors que plusieurs gouvernements ont subi l'échec d'une motion de censure, pourquoi pas, en tant qu'arbitre de la nation, article 5, je propose cette solution de la continuité. Mais à l'heure actuelle, si c'est vraiment le jeu de l'Assemblée nationale et du Parlement, ça n'est pas vraiment la lettre du président qui va apporter quelque chose à, on va dire, cette solution à l'Assemblée nationale. Continuité aussi, parce qu'on a le sentiment que cette coalition est proposée par, en quelque sorte, la majorité d'hier. D'où le grand problème qu'on a tous à qualifier aujourd'hui, la Macronie, la majorité présidentielle, on ne sait plus où on en est.
Oui, d'ailleurs, Éric Dupond-Moretti tout à l'heure continue par réflexe à dire la majorité. On sent que c'est un peu compliqué.
Et ce problème est précise d'ailleurs qu'il est encore ministre. Donc, au fond, est-ce qu'on est dans un ministère intérimaire, démissionnaire ? Qu'est-ce que c'est que cette qualité d'un ministre sans son Parlement inédit sous la Ve République ? Ça existe une seule fois en 62 parce qu'on démet le président avant d'avoir dissous l'Assemblée nationale. Là, on fait les deux choses dans le sens inverse. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'inaudible, j'imagine, de la part des oppositions. Et puis, le troisième point, c'est la question de savoir la viabilité de tout ça. C'est vrai qu'il faut laisser aux gagnants la possibilité de gagner, mais il faut se poser aussi la question de savoir, dans le temps, qui pourra perdurer plus longtemps qu'un été, plus longtemps qu'un projet de loi. Mais ça, il faut peut-être que les égos retombent un peu.
Alors justement, Adrien Brachet, sur ceux qui sont arrivés en tête, sans évidemment majorité absolue, mais malgré tout, c'est le premier bloc du Nouveau Front Populaire. Qu'est-ce qui se passe ? On entend Sandrine Rousseau dire « ça prend trop de temps », on a des indiscrétions nous expliquant que la fumée blanche pourrait être imminente. Oui. Guillaume le disait il y a un instant, ça semble bloqué sur Olivier Faure à Matignon. Est-ce que la France Insoumise peut accepter tout cela ? Qu'est-ce qui se passe à gauche ? Est-ce que vraiment la promesse d'un non avant la fin de semaine va être tenue ?
Alors, en tout cas, c'est ce qu'on nous annonce ces dernières heures. L'impression, c'est qu'ils veulent accélérer, notamment suite à la lettre d'Emmanuel Macron, où ils se disent il faut pas que ça nous retombe dessus. Mais ce qui est compliqué, c'est que, en vérité, au sein du Nouveau Front Populaire, il y a différentes attitudes et différentes conceptions sur ce qu'il faut faire maintenant. Mmh. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les insoumis qui disent c'est le programme, rien que le programme, et on gouvernera de cette manière et seulement de cette manière. Et vous avez certaines personnalités, notamment au Parti Socialiste, je pense à Jérôme Guedj par exemple, à Philippe Brun, qui commencent à dire oui, c'est nous qui sommes arrivés en tête, donc c'est nous qui avons vocation à entrer au gouvernement, mais pour que ça tienne, il faut qu'on le fasse avec des points d'accord accord avec, alors du coup on l'appelle plus la majorité, mais avec le camp macroniste. Et c'est seulement à cette condition qu'un gouvernement peut tenir. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire que là, on parle finalement de réflexes très politiques, de politique aérie entre les différents camps. Mais à la fin, pour qu'un gouvernement tienne, il faut qu'il y ait des consensus sur certaines propositions, sur certaines mesures. Et pour l'instant, depuis 3 jours, on parle énormément de non, mais très peu finalement des solutions de fond.
Guillaume Tabar, ce qui s'ajoute à cette pression du Nouveau Front Populaire, c'est l'appel de la CGT Cheminot à une mobilisation le 18 juillet, c'est-à-dire le jour où on élit le ou la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut jouer ? Est-ce que, au fond, on peut s'attendre à, on sera à 8 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, à une pression sociale qui pousserait Emmanuel Macron à jouer le jeu du Nouveau Front Populaire et à nommer quelqu'un, si tant est qu'ils se soient mis d'accord sur un profil?
Alors la pression, oui, elle est possible, elle est même probable. Je ne suis pas sûr qu'elle soit à l'honneur de la gauche, parce que d'abord il y a quand même chose de fondamentalement troublant. Éric Dupond-Moretti le rappelait tout à l'heure, il disait théoriquement le syndicalisme c'est la politisme. Alors il y a longtemps qu'on avait vu que la CGT n'était pas totalement apolitique, mais à ma connaissance, même au temps de la splendeur de l'Union de la gauche, je n'ai pas le souvenir d'un patron de la CGT sommer le président de la République de dire si vous ne nommez pas un tel, on va mettre le bazar dans la rue, on va faire des grèves. Ensuite, se greffe à ça le fait que et sur ce plateau, on les a commentés de nombreuses fois, à chaque fois qu'on approche ou de vacances scolaires ou d'un événement un peu symbolique important. Paf, il y a menace ou dépôt d'un préavis de grève. Donc, c'était évident que les JO servant d'otage idéal, la CGT allait faire pression là-dessus. Donc, je ne suis pas surpris. Mais, une fois encore, ce n'est pas l'honneur de la gauche d'aller dans ce sens-là. Parce que les Français, ils entendent quoi ? Ils entendent un jour Adrien Quatennens qui dit « Ah, si Emmanuel Macron ne nomme pas tout de suite un Premier ministre de gauche, on va organiser une marche sur Matignon. »
Marche populaire vers Matignon.
Oui, bon, ceux qui ont un peu de connaissance historique, une marche sur
Matignon. Il dit « vert ». Non, mais le mot est important, parce qu'effectivement, certains y ont vu des...
C'est quand même une marche.
Non, mais bien, je rappelle les termes.
Donc, on marche vers ou sur Matignon. Acceptons vers Matignon. On menace de bloquer, donc d'empêcher le bon déroulement des Jeux Olympiques. On veut interdire le premier groupe représenté de l'Assemblée nationale de détenir des fonctions statutaires.
Et en même temps, vous avez entendu, il y a un instant, Éric Dupond-Moretti, d'accord.
Hein, et ben, c'est pas non plus à son honneur, je trouve, sur ce plan-là. Je trouve qu'il y a un côté un peu inquiétant d'une gauche qui n'admet pas, finalement, que les choses se déroulent autrement que ce qu'elle voudrait décider.
Je vous donne la parole dans un instant, Anne-Charlène. Je voudrais juste qu'on écoute, pour parler précisément de ce qui est en train de se passer dans la majorité. C'était Rachida Dati, il y a quelques instants, c'était à Rouen. Si le gouvernement en est à invoquer ce type de manne-là, c'est que la situation est effectivement sans doute un peu difficile. Écoutez Rachida Dati.
En ces temps un peu perturbés, vous allez prier pour nous.
Bien sûr, on le fait.
Mais parce qu'il prie pour nous, voilà. Je trouve ça bien. Nous sommes en ce moment, nous avons un climat un petit peu perturbé, et donc c'est bien d'avoir un petit peu de communion, n'est-ce pas, Monsieur Monseigneur?
Oui.
Voilà.
Où est-ce que vous voulez de la communion?
Au sens très large et au sens, j'allais dire, œcuménique du terme. Voilà.
Priez pour nous, dit-elle. Je rappelle évidemment qu'elle est en déplacement à Rouen après l'incendie heureusement maîtrisé de la flèche de la cathédrale. Olivier Beaumont, sur ce qui est en train de se passer au sein de la majorité, c'est les grandes manœuvres. On a appris il y a quelques instants que l'élection du président de groupe allait avoir lieu samedi. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? On a entendu qu'Elisabeth Borne pourrait être candidate. Il a même été question à un moment donné qu'Elisabeth Borne se rattache finalement au Modem, que Gabriel Attal allait être candidat, que Gérald Darmanin ne le serait pas. Raconte-vous qui connaissez par cœur les coulisses de tout ça, qu'est-ce qui est en train de se jouer?
Alors déjà, Elisabeth Borne au Modem, c'était une fake news.
D'accord.
Ça n'a pas tout, donc ça on met de côté. Il y a deux choses. Enfin, il y a surtout effectivement une bataille qui se joue actuellement entre ces trois figures-là, Gabriel Attal, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. En fait, il faut rembobiner un petit peu la cassette. Vendredi dernier, le 5 juillet, 2 jours avant le second tour des législatives, Emmanuel Macron a reçu un par un ces trois personnalités-là. En plus, il y a Yael Braun-Pivet et puis Sylvain Maillard, le président sortant du groupe Renaissance, pour leur dire ça va. En les termes à propos rapportés, hein, mais que ça va swinguer après le second tour des élections et qu'il ne veut pas de guerre des chefs tout de suite après les élections législatives. Donc, je vous demande de ne pas engager tout de suite cette bataille-là. On temporise un peu et lui, il était plutôt pour une élection du président de groupe à la rentrée. autour des journées parlementaires de Renaissance fin septembre. Mmh. L'idée, c'est pas du tout d'empêcher les ambitions, les égos, mais plutôt de dire, là, on est dans une situation politique très instable, donc on joue la montre. Tous ont dit OK. Ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel Macron s'est envolé mercredi matin pour Washington. La veille, Gabriel Attal a reçu à Matignon une grande majorité des députés Renaissance. Et il sent en tout cas qu'il y a beaucoup qui pressent pour aller vite. Pourquoi ? Parce que en ce moment, d'ailleurs, Renaissance est le dernier groupe à ne pas encore avoir de président de groupe. Et se jouent aussi les répartitions pour les postes clés, les bureaux, les sièges et tout ça. Et donc, eux, ils se disent, non, mais il ne faut pas qu'on perde de temps. Il nous faut tout de suite un patron pour entamer les discussions, les négociations. Gabriel Attal se dit là qu'il y a un coup à jouer. Il sent aussi qu'il est potentiellement en capacité d'avoir une majorité. Et lui, ce groupe, il est intéressant, il est important pour lui, pour la suite, parce que ça peut aussi lui servir d'écurie présidentielle pour la suite. Groupe qui, d'ailleurs, est doté d'une petite manne financière, 4 millions d'euros en solde positif à l'heure où on se parle.
C'est donc, le favori pour l'élection de
C'est le favori. D'accord. Gérald Darmanin, qui lui aussi caressait l'espoir de pouvoir y aller, s'est rendu compte que dans le rapport de force interne au sein du groupe, il n'a pas forcément intérêt à y aller. Ce qui s'est passé, c'est que mercredi matin, il y a une réunion de groupe, enfin une réunion dans le bureau de Sylvain Maillard. Tous ces gens-là se sont expliqués. Et Elisabeth Borne a dit dans cette conversation, en tout cas, il est ressorti de cette conversation, que si Gabriel Attal y va, elle a en tout cas l'envie d'y aller aussi, qu'elle considère que Gabriel Attal, c'est pas tout à fait la même ligne qu'elle développe au sein du groupe. Donc, au moment où on se parle, on ne sait pas si elle va y aller. J'entends un petit peu les discours un petit peu contraires. En tout cas, elle a envie d'y aller, elle se compte. Mais il y aura une élection en tout cas anticipée, ce qui dit juste une chose, c'est que Gabriel Attal, une fois de plus, s'affranchit un peu plus d'Emmanuel Macron dans cette séquence.
Lui qui disait le soir dimanche dernier, je n'ai pas choisi cette dissolution, mais j'ai décidé de ne pas la subir. Anne-Charlène Bézina, ce qui est intéressant dans ce que dit Olivier, c'est qu'on voit à quel point tout va se jouer au Parlement. On va avoir toutes ces personnalités-là, et même dès la semaine prochaine, sur la répartition des postes. Président de l'Assemblée nationale, président de commission, questeur, président de groupe. Là encore, la logique institutionnelle qui parfois désintéressait les Français parce qu'au fond, ils disaient de toute façon, le pouvoir est à l'Élysée à Matignon. En fait, là, il y a une sorte de transfert vers le Parlement.
C'est vrai. Et il y a quand même cet inconnu de l'exécutif qui va être un moment de tension pour notre 5e République. Sur l'Assemblée nationale, l'idée qu'on puisse avoir un président de groupe au mois de septembre, alors qu'il faut déclarer à la présidence l'appartenance du groupe, et je vais plus loin, la question de savoir si le groupe appartient à la majorité ou à l'opposition. C'est la réforme de 2008 qui l'impose. Le jour du 18 juillet, je ne vois pas trop comment on pouvait différer l'élection. Donc, en soi, les présidents de groupe, les bureaux, les questeurs, tout ça, ça sera nommé le 18 juillet. Donc on ne peut pas faire semblant de temporiser sur cette question. En effet, le 18 juillet, il y a cristallisation de la majorité et de l'opposition. Et là, on a vraiment une indication sur qui travaillera avec qui. J'ajoute, on s'est posé la question de la pression sociale sur le président de la République par rapport à la nomination. Moi, je crois qu'il y a aussi une forme de pression historique et constitutionnelle. C'est-à-dire que, prenez François Mitterrand lorsqu'on lui annonce que ça n'est pas à Jacques Chirac d'aller à Matignon, mais Édouard Balladur. Comment expliquez-vous que, alors qu'il a un saint horreur les deux, François Mitterrand nomme Édouard Balladur à Matignon ? Parce que c'est la légitimité du groupe gagnant.
Et que sinon, par ailleurs, il peut y avoir une motion de censure.
Il peut y avoir une motion de censure. Alors, le groupe gagnant est certes gagnant d'une courte tête, mais que le président de la République joue aujourd'hui la lettre aux Français, c'est sûrement par rapport au fait qu'ils ne sont pas organisés suffisamment tôt. Si toutefois, on a un nom qui sort de ce groupe gagnant, je vois mal le président de la République sortir du chapeau une contre-légitimité en estimant finalement que le nom n'est pas le bon, ça serait quand même un vrai inédit. Et dans ce cas-là, il faut une coalition qui s'organise très vite.
Un dernier mot, Adrien Brachet, puisque voilà, et on enregistre les bandes, donc attention, le pronostic que vous allez faire restera dans l'histoire. La semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe ? Le président nomme un nom issu du nouveau Front Populaire. Est-ce que se joue en septembre, comme le dit Gérard Larcher ?
Alors moi, j'aime bien dire, mais alors là, c'est la solution de facilité, mais on apprend en marchant. Peut-être. Non, mais on peut très bien se retrouver dans une situation où on enchaîne différents gouvernements et où on est d'abord un gouvernement Nouveau Front Populaire, que ce gouvernement tombe et que donc on soit forcé plus tard dans un second temps d'aller vers la coalition. Parce que en fait, tout ce qui se passe jusque-là n'est pas dans notre culture politique. Les Français ne sont pas des Belges ou des Italiens. Et donc, ça peut prendre du temps de sortir de cette logique qui, pour l'instant, est très française.
Un pronostic, sans prendre trop de risques. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Anne-Charlène Bézina. Olivier Beaumont, on vous lit avec attention et plaisir dans le Parisien. Guillaume Tabar, on lit évidemment votre éditorial tous les jours. Et Adrien Brachet, on vous lit dans les colonnes de Marianne.